je babole un peu parce que face à moi, une scène qui n'est pas du tout courante. Nous avons un jeune couple qui va nous parler de son spectacle. Et puis, le petit bébé qui est là, Félix. Et je ne vous cacherai pas qu'il est en train de manger. Voilà. Alors, on va essayer de naviguer avec cette scène magnifiquement quotidienne et universelle. Et puis en même temps, votre spectacle. La question du jour, c'est peut-on être révolutionnaire et aimer les fleurs? La réponse se trouve peut-être dans cette création qui est proposée dans une ribambelle de lieux que l'on trouve sur notre site rts.ch/matinale. Et puis dès le 16 septembre, sur l'île Rousseau à Genève. C'est une coproduction avec le Théâtre Saint-Gervais. Voilà, c'est l'occasion de faire votre connaissance. Bonjour Dorothée Thébert.
Bonjour.
Et Philippot Filière.
Bonjour.
C'est vous qui nous immergez dans l'univers absolument fertile et révolutionnaire du Monte Verita. Là, il y a Félix qui fait la révolution, justement. Au départ, ils sont sept, au départ de cette aventure du Monte Verita, dont le couple fondateur Henrik Uydenkoven, fils d'un industriel anversois. Il y a aussi Ida Hoffmann, une pianiste d'origine austro-hongroise. Et ils s'installent en 1900, au-dessus d'Ascona. Ils créent un lieu pour expérimenter de nouveaux modes de vie, pour ceux qui souhaitent fuir les frénésies de la ville et vivre en communion avec la nature. C'est une utopie magnifique du début du XXe siècle qui se loge au Tessin. Est-ce qu'aujourd'hui encore la mémoire de cette île idéologique reste ancrée dans cette terre, Philippot Filière?
La Fondation Monte Verita, elle continue à proposer des conférences.
Mais la légende, si on veut bien, c'est presque aussi une légende, hein, ce Monte Verita.
Oui, la légende est encore vivante, notamment par le biais de ce qu'on appelle les balabiot, les danses tout nues, qui est une expression qui est restée dans le quotidien tessinois et même, je dirais, qui s'étend même au nord de l'Italie. Et donc il y a cette idée de marginal, de balabiot, de incompris qui est restée. Mais au-delà de ça, Harald Zeman, à la fin des années 70, a fait un très beau travail de mémoire pour aller au-delà de cette expression et mettre en lumière tout le travail qui avait été fait à Monte Verita. C'est-à-dire tout le travail d'utopie lié au corps, tout le travail d'utopie liée au retour à la nature.
Et vous souriez en voyant Dorothée qui s'échappe du studio pour un petit moment. On va voir si Félix reviendra plus apaisé tout à l'heure. Donc, effectivement, grand travail de mémoire pour se rendre compte que ces gens-là n'étaient pas que des gens qui avaient la tête dans les étoiles, mais qu'ils ont vraiment aussi dessiné un peu une Europe qui aurait pu avoir lieu, mais qui n'a pas eu lieu, justement. Hein. C'était des grands penseurs, philosophes, politiciens, futurs politiciens également. Justement, vous parlez, vous, hein, dans votre spectacle, de ces habitants du Monte Verita comme étant des jardiniers révolutionnaires, les tout derniers rêveurs de l'Europe moderne. C'est en tout cas ce que l'on lit à propos de votre spectacle. J'imagine que ça vous permet de faire des effets miroirs avec notre époque, ce spectacle.
Oui, l'idée du spectacle était de prendre Monte Verita comme un carrefour, un endroit de passage, parce que cette communauté a ouvert un sanatorium au tout début du XXe siècle, dans lequel beaucoup de personnalités sont passées. Et on a pris le parti pris d'écrire un défilé de personnages qui se rencontrent, qui discutent, qui dansent, qui chantent. Et à travers les témoignages que ces personnages nous transmettent, on laisse au spectateur le travail de faire un lien à ce qu'on vit aujourd'hui.
Philippot Filière, justement, vous nous proposez un spectacle aux allures de fêtes foraines où se télescopent des fantasmes collectifs. Donc on imagine que peut-être tout et son contraire se côtoient. Est-ce que vous avez envie qu'on sorte du spectacle avec quand même... Vous avez une mission bien précise. Vous le disiez, voilà, on laisse le spectateur faire les liens. Mais qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, vous, avec Dorothée Thébert, à travers ce spectacle ?
Mais probablement c'est l'idée que une alternative est possible et Dorothée me mime aussi
de l'autre côté de la vitre, avec Félix dans les bras.
La liberté du corps qui est un des thèmes importants à Montevelita.
Et puis aussi ce qui est intéressant, c'est que le spectacle se vit en trois langues, hein, le français, l'allemand, l'italien. C'est une envie qui s'est imposée parce que le spectacle tourne dans les trois régions linguistiques où c'était une nécessité pour encore dire plus cette liberté.
C'était un parti pris de départ parce que dans la communauté, il y avait plusieurs langues. Disons, la langue officielle était l'allemand, mais il y avait des Tessinois qui ont fréquenté la communauté. Donc il y avait
des Russes,
Italiens,
des Français,
il y avait des Russes, il y avait des Français. Donc il y avait l'idée du de plurilinguisme. Après, oui, le parti pris aussi, c'était de partir de Montevelita même. On aura... notre première officielle, on va dire, et puis descendre jusqu'à la ville, jusqu'à Milan. Et donc, on voulait traverser les frontières, traverser aussi à travers la langue en écrivant à plusieurs langues. Et puis oui, c'est une tournée qu'on a... c'est une vraie tournée suisse, donc on la voulait en plusieurs langues. Mais en même temps, on voulait pas faire un travail de traduction, donc les personnages, ils parlent
dans leur langue.
Plusieurs langues.
C'est un spectacle donc en plein air. La nature est en effet au cœur de l'idéologie du Montevelita. Comment vous faites participer la nature dans votre spectacle?
Mais c'est un décor qui est à ciel ouvert. C'est un décor dans lequel on joue même s'il pleut. Donc on est plus ou moins abrité. C'est un décor qui est aussi inclus en sauna. Et donc les spectateurs, à la fin du spectacle, ils sont invités à rester, partager un sauna et poursuivre la discussion sur Montevelita. Et puis c'est un décor aussi qui est fait qu'avec des matériaux naturels, en feutre et en bois. Et donc quand on est en contact avec la nature, dans le sens que... Souvent, on est dans des parcs, on voit des arbres, on sent le vent, on sent les oiseaux, mais naturellement, on entend la ville, on entend tout ce qu'il y a autour.
Parce que justement, c'est intéressant, vous parlez du décor, Philippe Ophéliguer, et vous avez fait appel à un bureau d'architecture, le bureau A, pour cette scénographie. Hein. Et ça ne vous inquiétez pas, l'enfant va bien,
oui,
Félix est en train de
vous
bonne
vois.
Main. tout se passe bien. Tout est géré, tout est gérable, absolument. Vous avez décrit hein, le sauna, cette structure à ciel ouvert. Est-ce que c'est, quand vous partez sur les routes pour présenter votre spectacle, c'est un spectacle qui est lourd hein, ou c'est facile de vous installer?
C'est un spectacle qu'on croyait plus léger, mais l'idée était la légèreté. Donc tout le décor est en kit, on va dire. Ça prend quelques heures pour le monter, quelques heures pour le démonter. Il est inspiré en fait des palissades qui protégeaient Montevelita pour que les curieux viennent pas guigner les gens qui prenaient
pas de
des bains
ouais.
de soleil parce
tout
que
nu.
Le naturisme était une des cures proposées là-bas pour soigner son corps et à travers le corps soigner aussi l'esprit. Et donc c'est le décor est quelque part assez simple, c'est des palissades qui enferme les spectateurs, mais dans le sens de les protéger, les accueillir pour créer un endroit convivial.
C'est un endroit, Montevelita, qui a beaucoup attiré des gens de lettres, des arts, Picabia, Tolstoï, Bakounine. C'est, j'imagine, un des angles aussi qui vous a inspiré. Comment commence ce spectacle? Quelle voix entend-on?
On entend la voix de... On entend la voix des bruits qui entourent le spectacle. Tout commence par rendre attentif le spectateur à ce qui entoure le décor.
Donc la pulsation du monde.
Voilà, tout ce qui est en dehors. Mm-hmm. Et puis petit à petit, on décrit le décor. On donne une sorte d'aperçu historique, on va dire, pour contextualiser Montevelita. Et après ça, c'est un défilé de trois quarts d'heure de tous les personnages.
qui prennent la parole.
Qui prennent la parole, qui dansent.
Est-ce qu'ils dansent nus, forcément? On peut
ça
se poser la question.
Voir. Ça
on ira entre les palissades. Toute idéologie a ses faiblesses, ses excès aussi, ses caricatures. Est-ce que vous pointez du doigt aussi certaines de ces choses, ou on est vraiment dans le plaisir de l'utopie?
Non, on essaie quand même d'être critique par rapport à cette idée radicale qui base une communauté sur l'idée végétarienne. À un certain moment, oui, on a voulu remettre en question ça parce qu'on pense que ça a été une belle alternative, mais qu'un vrai changement nécessite une vraie remise en question des institutions. Et donc, Montevelita a été une belle alternative. Je regardais Félix.
Oui, je vois bien que vous regardez le papa qui regarde attentivement Félix, mais tout va bien.
Montevelita était une belle alternative, mais ce qui était fascinant, c'est que c'était aussi une alternative provisoire. Du fait qu'il y avait un sanatorium, les gens pouvaient vivre cette alternative pour une durée illimitée, un séjour. Et donc, on pouvait retourner à la nature sans forcément faire la révolution, changer le monde, mais profiter de l'alternative pendant une petite fraction.
Et peut-être la porter ensuite dans le monde aussi, c'était un petit peu
absolument,
ça l'idée.
Absolument, c'était l'idée de se changer soi-même et pas vraiment changer le monde.
Merci beaucoup Philippe Auvilliguer, je remercie Dorothée Teber qui aurait dû être à l'antenne mais qui s'est occupée du petit Félix qui a l'air d'être, vraiment il a la voix révolutionnaire, il a un bel organe. Votre spectacle commence donc le 6, demain à 20h30 au Nax Forum Mont-Noble, au Gouille de Vernamiège, et puis ensuite le 12 septembre à 20h30 à l'Ascona Fondazione Montevelita. Pour le reste des dates, tout est sur notre site rts.ch matinale. Bon vent à vous, bon spectacle. Au revoir.
Merci.